Bonjour, vous êtes bien sur Studio Zef. Vous nous écoutez sur 91.1 à Blois et sur www.studiozef.fr dans le monde entier. Pour ce nouvel épisode de Pédacop, nous sommes à Bourges, dans le Cher, et nous recevons aujourd'hui Aline Gilbert, qui aura l'occasion de se présenter dans quelques instants. L'échange sera mené par Emmanuel Bessé-Ferreira et Véronique Durand, toutes deux membres du conseil d'administration de l'OCCE du Cher. Alors Aline, pour commencer, pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours professionnel ?
Alors, je suis professeure des écoles à Bourges, dans une école maternelle, en classe de moyenne et grande section, depuis 5 ans. Auparavant, j'ai été enseignante en CM1 pendant 9 ans. Je suis maître formateur depuis 5 ans. J'ai également suivi dans mon parcours, donc j'ai été ZIL durant 4 ans. Et à l'issue de ce poste de ZIL, je suis partie travailler aux États-Unis pendant une année, en classe de maternelle dans une école internationale donc, où les enfants suivaient un enseignement bilingue. Et donc, durant cette année d'enseignement, j'ai rencontré, suite à divers hasards, tous plus drôles les uns que les autres, la pédagogie Montessori, qui m'a beaucoup passionnée. Et un autre hasard est arrivé à la fin de l'année aux États-Unis. Je suis retournée en France, et à Paris avait lieu le congrès Montessori international de l'AMI, qui n'avait pas eu lieu en France, je pense, depuis à peu près 40 ans. Donc c'était à l'UNESCO pendant 3 jours. J'ai assisté à des conférences de personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres, qui étaient soit formateurs, soit didacticiens, soit éducateurs liés à la pédagogie Montessori, donc des gens du monde entier. Donc c'était vraiment passionnant et très intéressant. Donc suite à cela, je suis rentrée en France et j'ai travaillé à nouveau en CM1 et j'ai demandé un congé formation que j'ai obtenu pour pouvoir devenir éducatrice Montessori. Donc durant une année scolaire, j'ai suivi une formation à l'association Montessori internationale antenne française à Paris. Donc ça s'appelle l'Institut supérieur Maria Montessori. Et cet institut forme des éducateurs entre 3 et 6 ans. Depuis, ça a un petit peu changé parce qu'il y a des formations aussi pour les 0-3 ans. Donc durant cette formation, c'était assez intéressant parce que j'ai dû un petit peu désapprendre ce que j'avais un peu appris à l'UFM, pas entièrement, mais c'était vraiment une orientation totalement différente que celle dont j'avais bénéficié en formation d'enseignante. Donc cette formation a été validée par un diplôme. Et à l'issue de la fin de la formation, mon diplôme d'éducatrice Montessori en poche, je suis revenue dans ma classe de CM1. Ensuite...
Alors, Aline, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel était le contenu de cette formation ou les grandes lignes, en fait, de ce que vous avez appris durant cette formation ?
Alors cette formation s'articule sur plusieurs axes. Le premier axe qui est fondateur, c'est un axe théorique, c'est-à-dire repartir des textes de Maria Montessori, donc une analyse en profondeur de la théorie et des concepts qui sont clés dans cette pédagogie. Le deuxième temps qui s'articule avec le premier, c'est apprendre à observer les enfants. Ça peut être apprendre à observer un enfant dans un parc, par exemple, en se fixant un objectif d'observation. Apprendre à analyser une observation. Donc tout cela avant tout ce qui est matériel Montessori, donc toute cette partie-là très très importante. Et ensuite progressivement, à la fois stage d'observation dans une ambiance Montessori 3-6 ans, c'est-à-dire observation, et là c'est très intéressant parce que nous dans l'éducation nationale on n'est pas très habitués. On avait la consigne, ça peut paraître très surprenant pour un enseignant, de s'asseoir sur une petite chaise dans un coin et de se faire oublier, c'est-à-dire une semaine, sans adresser la parole aux enfants, pour vraiment ne faire que de l'observation. Retour en centre de formation, et à ce moment-là, on décortique quelques-unes des observations, mais vraiment de manière assez très 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 fine, toujours en lien avec les objectifs théoriques, c'est-à-dire vraiment de quelque chose de très très objectif dans le regard. La suite, c'est après l'apprentissage de l'utilisation du matériel. Montessori, donc de manière aussi très 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 pointue, c'est-à-dire qu'une présentation extrêmement précise d'un formateur à l'ensemble des étudiants, de l'utilisation du matériel, avec pour objectif pour les étudiants de noter exactement au geste près une fiche qui après, ce que nous on appelle après chez, dans les éducateurs Montessori nos albums, c'est-à-dire qui nous permettent après de réutiliser le matériel au mot près, quand on a oublié, parce qu'il y a énormément de matériel. Donc il y a toute cette partie où on nous présente du matériel et qui est très très longue. Il y a aussi la partie de l'entraînement de l'étudiant. On s'entraîne à réutiliser le matériel, parce qu'il y en a énormément, donc il faut mémoriser. Et puis une dernière partie, après c'est l'entraînement aussi aux examens écrits, parce qu'il y a une partie écrite dans l'examen final sur différents thèmes, et puis et l'entraînement après l'examen apporte une partie pratique également. Et il y a un autre stage, autre que celui d'observation, où après on est amené à faire un stage pratique, c'est-à-dire que là on est éducateur stagiaire et on accompagne un enseignant dans son ambiance 3-6 ans.
Alors il y a une nuance entre l'éducateur et l'enseignant, parce que
En fait chez Montessori les enseignants sont appelés éducateurs.
D'accord. Peut-être à dessein, est-ce que ça a un sens particulier? Vous qui êtes enseignante.
Oui, alors moi je trouve que ça a du sens. Pour moi, après, j'ai jamais creusé. Mais moi, le sens que j'y mets, moi, c'est que chez Montessori, on n'est pas intrusif dans l'apprentissage des enfants. Donc on les accompagne dans l'éducation, mais on n'est pas enseignant. On n'enseigne pas. On montre ou on accompagne un enfant dans son apprentissage. Mais je pense que c'est plus. C'est mon avis à moi, c'est
d'accord,
ce que je retiens.
D'accord, d'accord.
Mais après, c'est vrai que j'ai jamais posé la question.
Et donc, au sortir de cette formation, vous avez choisi de revenir sur l'enseignement public.
Alors, ça a été douloureux. Le retour a été douloureux, mais je n'avais pas tellement le choix en soi, parce que c'est complexe. Parce que j'étais très attachée à l'enseignement public pour plein de raisons. Mm-hmm. Et je me disais que... Donc ça, c'était il y a longtemps, parce qu'on se positionne... J'ai fait ma formation il y a 12 ans, donc Montessori, on ne connaissait pas. J'étais la deuxième enseignante de l'éducation nationale à avoir été acceptée pour faire cette formation. Ça a été un peu un combat, parce que c'était pas possible. Il y avait plein d'enseignants à qui on refusait.
La question qu'on peut se poser, oui, c'est finalement, quand on enseigne dans une école publique, qu'on a eu une formation d'éducatrice, donc, hein, Montessori, qui n'a pas du tout le même sens que l'enseignant lambda dans une classe. Est-ce que pour autant, comme on peut l'entendre parfois dire, est-ce qu'on peut avoir dans une structure institutionnelle une classe Montessori? Comment est-ce que...
Alors c'était très complexe parce que c'est très complexe.
Et est-ce qu'on peut parler de classe Montessori? Voilà. Comment est-ce qu'on jongle quand on est enseignant fonctionnaire avec ces deux aspects de son expérience, finalement?
C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut arriver à soit se positionner, soit pour savoir où on se place. Parce que sinon, ça peut être très, très complexe. Ça peut être complexe parce qu'on peut rejeter en bloc l'éducation nationale. Ça peut avoir ce risque-là. Donc c'est vrai que c'est pour ça que quand je suis revenue, je ne me sentais pas à ma place. Parce que déjà, j'étais en CM1 et qu'il fallait que je me repositionne. Après, j'ai très, très vite compris qu'au-delà de ça... C'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Alors, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'entendre parler dans les nouveaux programmes de bienveillance. Je trouve ça chouette parce qu'on arrive à se dire...
Et d'observation.
Donc, il y a plein de choses dont je trouve que ma formation a des réponses dans le nouveau programme de 2015. Mais voilà, je pense que c'est l'état d'esprit qu'on se donne soi. Et qu'on retrouve dans diverses autres pédagogies, pas que Montessori. Et dès qu'on a dépassé ça, moi j'avais ma place dans l'éducation nationale, je n'avais pas envie d'en partir, mais ceci dit, ce n'est pas pour cela que je n'avais pas au départ des difficultés à me repositionner.
Ce sont des compétences qui s'ajoutent pour le coup.
Voilà, c'est ça.
Et donc, alors par contre, c'est vrai que vous évoquiez le matériel, et ce matériel il est bien au centre de la pédagogie Montessori, en tout cas il y en a qui l'ont compris, c'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui vraiment à un engouement pour tout ce matériel. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la diffusion de ce matériel si les utilisateurs ne sont pas formés à leur usage, comme vous venez de l'expliquer, parce qu'il y a une formation spécifique pour utiliser ce matériel selon des objectifs, malgré tout, même s'ils ne sont pas les mêmes que l'école, des objectifs précis.
Ah bah pour moi, le matériel n'a aucun intérêt si on n'est pas porteur, soit en tant qu'enseignant ou éducateur, de l'utilité qu'il a. C'est-à-dire que les enfants, quand on voit une classe Montessori, on a l'impression que les enfants l'utilisent librement, comme bon leur semble, mais il faut bien savoir que derrière tout ça, c'est très 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 cadré. Le cadre et l'orientation de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il prévoit exactement à qui il va présenter quel matériel et dans quel ordre, c'est-à-dire que ça a une importance énorme et que c'est pas parce qu'un enfant manipule un matériel qu'il va trouver une clé ou une compétence qu'il va pouvoir développer. C'est là où c'est effectivement une grande question qu'on se pose tous les gens qui pratiquent ça comme moi et qui se sommes un peu penchés sur la question. On est un peu inquiets parce qu'on voit que... Alors, d'un certain point de vue, on est content parce qu'il y a des choses qui se diffusent, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi, comme pour tout, c'est très commercial. Donc, il y a un engouement d'à la fois des parents et puis des enseignants aussi, ce qui est bien, mais on perd un petit peu, les fondements. C'est-à-dire que la théorie n'est pas posée, on ne sait pas vraiment pourquoi on pose ça et que ce n'est pas parce qu'on va manipuler du matériel quel qu'il soit, ce n'est pas forcément Montessori. On peut donner n'importe quels objets dans une classe à des enfants. Ce n'est pas pour ça qu'on va atteindre un objectif défini. Donc c'est vraiment que c'est une grande question et que je trouve beaucoup d'enseignants viennent me voir et que je leur dis bien attention, enfin n'achetez pas, prenez le temps, questionnez-vous et revenez nous voir ou lisez ou documentez-vous ou formez-vous.
Et finalement, concrètement dans la classe, vous avez bien fait du lien avec les nouveaux programmes. Comment vous organisez dans la pratique pour que finalement la théorie et vos connaissances de la pédagogie Montessori puissent s'organiser au sein de la classe.
Alors on a fait un travail assez intéressant avec plusieurs personnes et on va le refaire avec le nouveau programme, c'est-à-dire qu'on liste les compétences des programmes et en face on liste le matériel Montessori et les compétences et on fait coïncider les choses ensemble. Donc ce qui nous permet, nous, quand on fait nos progressions, de savoir où on en est. Et puis aussi, par rapport à l'institution, c'est aussi notre rôle, quand j'accueille des stagiaires, toutes ces choses-là, donc de mettre en coïncidence les compétences que l'on travaille avec la pédagogie Montessori et les instructions officielles. Donc ça, c'est un moyen que l'on a. Et puis après,
Vous faites du Montessori, la pédagogie Montessori, toute la journée ?
Non, moi non. Moi, je n'en fais pas parce que je ne suis pas dans une école où les gens travaillent de cette manière. Donc ce serait déjà irrespectueux par rapport au reste des personnes qui travaillent avec moi, parce que moi je ne cherche pas à imposer mon fonctionnement, et aussi par rapport aux enfants, parce que les enfants ils viennent d'ailleurs, ils ont acquis des compétences ailleurs, avec leurs parents, avec leurs enseignantes, et puis ils vont aller autre part, ils restent un an avec moi, ils resteraient plus longtemps, ça serait différent, mais sur une année je ne m'autorise pas. Je le mets en place très progressivement aussi, parce que il y a tellement de matériel et beaucoup d'enfants, donc c'est un peu compliqué en début d'année de mettre en place, puisque les enfants sont en manipulation individuelle et autonome progressivement. L'autonomie, ça vient pas tout de suite, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça a aussi un peu une confusion entre Montessori, autonomie, indépendance, liberté, joie, enfin voilà. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et donc moi, je commence dans ma classe par les moments d'accueil. C'est-à-dire que, contrairement aux autres maternelles en général, où on voit que les enfants arrivent et... il y a déjà des puzzles sur les tables. Moi, dans ma classe, jamais. C'est-à-dire que progressivement, les enfants savent quel matériel ils peuvent prendre. Et à cette condition, si je leur ai présenté, ils peuvent l'utiliser librement. Et donc, au début, ce sont seulement les temps d'accueil. Et puis, progressivement dans l'année, il y a des temps de manipulation autonome qui sont vraiment réservés dans l'emploi du temps.
Il est temps de faire une courte pause musicale. Aline a souhaité écouter Wisely and Slow du groupe The Stave.
Singer singing songs of pain. Time may spin and years may pass, the song is still the same. Tender woman, silent sorrow with a bottle in her hand. Tell me all you need to tell. Why is it you whisper when you really need to yell? Troubles in tow. Go wisely and
sur Studio Zef, de retour pour un pédacope avec Aline, Emmanuel et Véronique.
Je peux revenir quand même sur ce problème de matériel, parce qu'on a l'impression quand même que la pédagogie Montessori, elle est vraiment assujettie à l'utilisation du matériel. Mmh. Alors comme vous nous avez parlé de posture, de théorie et de concepts clés, je me dis, est-ce qu'il n'est pas possible d'introduire l'esprit de la pédagogie Montessori sans pour autant passer par le matériel? Parce que ce rapport entre objectif matériel,
Complètement.
Il peut semer la confusion.
Ça, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est très très important de revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie des écrits de Maria Montessori qui présente ce qu'est un enfant. Bon, à l'époque, maintenant, quand on lit les écrits, on peut trouver ça un petit peu désuet, mais il faut le replacer en début du XXe siècle. Hein. La place de l'enfant était quand même. N'avait pas du tout la même place que celle qu'elle a maintenant. Et je pense que voilà, c'est aussi une attitude de l'adulte. Tout ce travail sur l'observation, regarder à quel moment, quel enfant a besoin, de quoi il a besoin là, et qu'est-ce que je peux faire pour lui, voilà, sans être intrusif, sans jamais être intrusif. Donc toute cet état d'esprit de l'adulte à l'égard de l'enfant, bien évidemment,
il est transférable.
C'est-à-dire, elle est partie de l'enfant et de son observation et de ses difficultés. Il faut aussi la replacer en tant que personne qui était... Qui soignait et qui était dans le soin des enfants avec des pathologies mentales. Donc, trouver une solution à la difficulté.
Vous nous avez expliqué que vous étiez maître formateur, que vous receviez donc des étudiants dans votre classe. Ils viennent prendre des repères pour apprendre le métier d'enseignant. Quand ils voient les élèves concentrés sur une tâche individuelle, autonome, active, sur du matériel Montessori, est-ce qu'ils ne risquent pas peut-être d'être un peu éblouis, séduits par juste le fait que le matériel permette de mettre les élèves dans cette situation-là? Et comment vous gérez cette difficulté justement première?
Alors ça, c'est vraiment la question que je me pose chaque année. C'est-à-dire, est-ce que ça a une place? Parce que c'est pas quelque chose qui est courant. Ça le devient, mais pas dans les termes où quelqu'un, je pense aussi à une autre collègue qui travaille comme moi, qui a la même formation que moi, et effectivement, on fait Montessori parce qu'on a été très bien formés. Après, je me dis, moi, j'ai toujours peur d'imposer, c'est-à-dire que je sais que c'est profitable à mes élèves, mais qu'est-ce que je sème dans la tête des gens? C'est-à-dire que je sais que qu'en montrant ça, il y a des choses qu'ils vont pouvoir peut-être adapter. Mais s'ils essayent de plaquer totalement sur ce que je fais moi, ça ne va pas être possible. Donc, en fait, on essaye de voir, à chaque fois, on décortique. C'est-à-dire que je prends le temps aussi de tout ça avec eux, parce que sinon, c'est vrai que ce serait... C'est terrifiant. C'est-à-dire que... Et surtout, pour les gens, par exemple, je leur demande toujours, est-ce que tu as déjà vu une classe de maternelle quand ils arrivent? Parce que je leur dis, Tant mieux, ouf, tu as déjà vu. Parce que ceux qui n'ont jamais vu, c'est vrai que si leur première image mentale de la maternelle, c'est ma classe, ça peut être un peu compliqué, parce que c'est souvent les premiers modèles qui nous accompagnent. Donc je leur dis attention, ce qui serait bien, c'est que tu ailles en voir d'autres, que tu même ailles voir les classes des collègues, que tu vois que c'est pas du tout le même aménagement, il n'y a pas du tout les mêmes coins de travail. Et après, voilà, je prends beaucoup de temps pour dire attention. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a des choses qui sont adaptables, et d'autres moins, parce que moi j'ai été formée, parce que c'est mon choix personnel enseignante. Mais c'est vrai que c'est très très important d'être vigilant là-dessus avec les enseignants, parce qu'ils sont en demande et ils ont besoin de pratique
et d'exemple.
Et donc calquer quelque chose qui n'est pas calcable au demeurant immédiatement, parce que ça ne l'est pas. Donc je me suis très longtemps posé la question, est-ce que je fais Montessori ou pas en tant que maître formateur, parce que effectivement c'est pas ce que l'institution est en attente de faire, et je sais que parfois ça peut déranger aussi, et ça dérange. Donc c'est complexe.
Est-ce que vous diriez que vous faites vraiment de la pédagogie Montessori finalement?
Moi non, enfin je ne fais pas que ça, c'est-à-dire que je ne peux pas dire oui je fais uniquement Montessori, parce que je ne peux pas et je ne m'autorise pas à le faire, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et puis, chaque année est différente, c'est-à-dire que je vois qu'il y a, par exemple, l'année dernière, j'ai fait presque que ça. Cette année, ça n'était pas possible, parce que mes élèves ne correspondaient pas à ça. C'était beaucoup plus compliqué à mettre en place, c'était pas du tout les mêmes besoins. Donc je l'ai beaucoup utilisé en remédiation à certains moments, ou en petits groupes, ce que je n'ai jamais fait l'année dernière. L'année dernière, je faisais vraiment des présentations autonomes à chaque élève. Cette année, je prenais des groupes de besoins avec un même matériel, ce qui n'existe pas chez Montessori, par exemple.
Puisque nous sommes ici à l'ECCE, sur une radio CCE, diriez-vous qu'il y a un lien entre la pédagogie Montessori et la pédagogie coopérative? Parce qu'on a l'impression que souvent l'enfant est autonome et individuellement devant un outil. Est-ce que c'est possible la coopération?
Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent ça et en fait, c'est pas du tout ça. C'est vrai quand les enfants entrent à la maternelle, c'est-à-dire que comme les écoles Montessori, normalement, ce sont des groupes d'âge mélangé entre 3 et 6 ans, quand les petits arrivent, ils sont forcément seuls. Et c'est pour ça qu'on a développé cette pédagogie-là, parce que l'enfant a besoin d'investir, de comprendre un fonctionnement en le manipulant seul, en y passant du temps. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, et moi je le vois parce que j'ai des moyens et des grands, c'est très différent. C'est-à-dire que les grands, au bout d'un moment, se mettent ensemble et se mettent à travailler ensemble. Et ça crée vraiment beaucoup de sens social. Y a de la coopération. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai des moyens qui sont plus forts que des grands dans un certain domaine. Donc, ils me disent, est-ce que je peux aller aider un tel? Je vais lui apprendre les lettres rugueuses parce que je vois qu'il a besoin. Donc, en fait, le fait de voir que chacun travaille différemment dans ces moments-là, eux, ils développent beaucoup d'observations parce qu'ils sont autorisés à observer. Ils sont pas toujours, s'ils ne veulent pas travailler, ou n'en éprouvent pas le besoin à certains moments, ils peuvent observer, peuvent se déplacer. Et ils peuvent aussi dire, mais moi là je vois que tu sais pas bien le faire, je vais te montrer. Donc en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, et c'est pour ça que je trouve que ça ressemble un peu à ce que j'ai compris de Freinet et des classes coopératives, on n'est plus dans un enseignement traditionnel vertical, mais complètement horizontal au bout d'un moment. Moi je suis là, mais tu vois, il y a aussi quelqu'un, et je délègue beaucoup, 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 parce que j'ai besoin d'eux et... Quand ils savent faire, ils peuvent. Je sais qu'ils peuvent montrer et qu'ils le font extrêmement bien au bout d'un moment. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que c'est intéressant sur 3 ans, en fait. Quand les enfants sont 3 ans dans la même classe, c'est très intéressant.
Mais on voit bien, alors, pour le coup, qu'en fait, vous nourrissez à la fois de vos compétences d'enseignante que vous avez acquises avant cette formation... des éléments de cette formation qui se sont ajoutés comme une richesse... D'autres courants aussi qui vous inspirent, et donc voilà, effectivement, on voit bien que c'est plusieurs cordes à un arc, mais pas.
Ah, mais moi, si je m'étais toujours dit, si je pouvais, j'essaierais volontiers de travailler comme ça, mais je pense qu'en fait, ça me correspond pas. Je sais pas comment dire, je sais pas si un jour j'arriverai à travailler dans une classe complètement Montessori. Mais je me demande que mon défi, et je pense que mon défi à moi, il est ailleurs, je le sens bien, parce que je suis toujours en train d'imaginer qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour un tel et un tel, donc je vais au-delà. En fait,
Est-ce que ça vous arrive aussi de choisir une pédagogie de projet au sein de votre classe. Et est-ce qu'elle s'ajoute, elle se mêle
beaucoup.
Vous pouvez nous parler d'un projet.
Par exemple, là, cette année, on est en train de travailler sur les insectes et sur la ruche. Donc, j'ai une ruche dans la classe. Une ruche vide, hein, parce qu'on n'a pas d'apiscope. Et puis, donc, les enfants ont travaillé, ont observé, ils ont préparé des pots de miel, ils ont coupé de la cire avec du miel, ils ont écrit les pots. Enfin, voilà, il y a tout un travail sur les insectes. Ils ont fabriqué
donc,
des
groupe,
rayons.
En
groupe.
Voilà.
Beaucoup de travail de groupe aussi. Donc, j'alterne les moments. Voilà. Et je m'autorise à bouger beaucoup mon emploi du temps. C'est-à-dire que quand je vois qu'ils ne sont pas disponibles pour quelque chose et qu'ils seraient plus nourris par des ateliers de manipulation autonome, on y va. Enfin, c'est-à-dire que je suis capable de changer à un moment donné, de se dire ce moment-là, on va le réserver pour... Et puis certains enfants éprouvent le besoin. On n'est pas tous forcément en regroupement tout le temps. Il y en a qui font un finissage de travail ensemble. Ou... Voilà. Donc on a vraiment... C'est une petite société qui se dessine au cours de l'année.
Comment... vous nous l'avez un peu dit, mais peut-être qu'on peut revenir pour conclure. Comment voyez-vous votre pédagogie dans l'avenir? On voit la richesse finalement de toutes ces approches qui s'entremêlent au service vraiment de chaque enfant. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point qui est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour l'avenir? Est-ce que vous voyez changer les choses?
C'est complexe de voir ça parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'évoquais ce que j'aimerais, moi, c'est à un moment donné pouvoir essayer dans l'école publique. Hein, j'entends, j'ai pas du tout pour l'instant envie de quitter ça parce que je trouve qu'on a vraiment une place à jouer. De pouvoir travailler avec des enfants sur 3 ans, ça serait vraiment intéressant pour continuer cette approche-là, parce qu'on voit que chaque année, quand ils partent, on a un début de quelque chose avec certains, et que voilà, ça serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait.
Ou alors, la continuité pédagogique, elle pourrait aussi exister si dans l'école, on pouvait imaginer un travail d'équipe plus en cohérence, quoi, sans renoncer, sans que chacun.
Mais je pense que le nouveau programme, il permet vraiment d'envisager ça autrement. Moi, par exemple, dans ma classe qui n'existe pas chez Montessori, je mets en place, j'avais des cahiers de réussite. Donc, avec le matériel Montessori, on a vraiment fait un gros travail avec une collègue qui travaille avec Montessori cette année pour nous fabriquer plein de brevets et puis travailler. Donc ça prend beaucoup de temps, mais les enfants ont acquis cette capacité-là. Et ça correspond au cahier de progrès.
Tout à fait, au niveau
je trouve
programme.
Que c'est très intéressant. Et donc, dans une école, en partant de ça, peut-être qu'on peut arriver, avec ces cahiers de progrès, à avoir des liens entre nous.
Merci vraiment, Aline,
de rien,
pour
merci.
Tous ces éclaircissements qui vont peut-être permettre aux personnes qui s'intéressent à la pédagogie Montessori d'y voir un peu plus clair et de ne pas se laisser... émerveillée par finalement des choses qui sont peut-être qu'une toute petite partie vraiment de toute cette pédagogie. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Donc cette émission s'achève. Encore une fois, un grand merci à Aline, Emmanuel et Véronique pour cet échange enrichissant. Donc nous vous disons à bientôt sur Studio Zef pour un nouvel épisode de Pédacop.